quand on reprend nos slides d'il y a 5 ans, c'est à peu près texto ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on était très très loin d'imaginer, un, qu'on arriverait à le faire, et deux, que ça deviendrait ce que c'est devenu aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai senti même physiquement, en fait, que c'était ça allait pas être possible. Quelque chose d'assez frappant, c'est que je me rappelle, juste avant de reprendre le travail, je me voyais dans le miroir et je voyais quelque chose d'assez... Je me voyais lumineuse. J'avais jamais vu ça, en fait. Et je pense qu'en effet, pendant ce road trip, il y a quelque chose, une lumière qui s'est réveillée, quoi, une flamme qui s'est allumée. Et après 3 jours de reprise de travail, bah là où c'était très frappant, c'est que je me reconnaissais plus dans le miroir. Je me suis vue complètement grise. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Donc voilà, je dirais le message était pour moi, en fait, très clair.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Cela faisait plus d'un an que je rêvais d'avoir Rosemey derrière mon micro. Nous avions notre rendez-vous planifié depuis plusieurs semaines en décembre dernier. Sauf que j'étais malade et elle était fatiguée. Nous avons maintenu, mais nous n'étions pas vraiment satisfaites du résultat. Nous avons donc décidé de réenregistrer un nouvel épisode. En dehors du plaisir d'avoir pu repasser du temps avec Rosemey, cela valait clairement le coup. Et désormais, quand mon invité me dit qu'elle est KO, ou que moi-même j'ai un coup de fatigue, eh bien je reporte. Ça aura été l'un des nombreux enseignements de notre rencontre. Depuis l'enregistrement, il y a eu de nouvelles mesures sanitaires. Change Now sera donc 100% à distance et l'accès sera gratuit. Il y a également des passes qui offrent un accès à différents types de services. Rendez-vous sur Instagram où je vous en parle et où vous pourrez gagner des places. Petite parenthèse traditionnelle, si le podcast vous plaît, j'ai besoin de vous en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Revenons-en à Rosemey. Diplômée de l'EM Lyon, elle a commencé sa carrière comme chef de produit dans un laboratoire pharmaceutique. Elle part ensuite chez Nestlé Health Science. C'est suite à son congé maternité, durant lequel elle fait un road trip, qu'elle se rend compte que cette vie n'est plus faite pour elle. Elle décide alors de changer le monde avec son mari. Rosemey est maman de 2 enfants et la cofondatrice de Change Now. Bienvenue dans l'univers de Rosemey Lucotte.
Bonjour Rosemey.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ?
Oui, alors j'ai choisi une pastèque sculptée en forme de planète, qui est une sculpture que j'ai faite il y a quelques années. Déjà parce que c'est un de mes hobbies de l'été, hein, de faire de la sculpture sur fruits. C'est un art que j'ai découvert à Bali il y a quelques années et qui m'a complètement accrochée et passionnée. Et puis aussi parce que cette planète, c'est, je dirais, un symbole de mon engagement depuis 4 ans à travers Change Now. Et aussi, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit que c'était un peu un symbole aussi de... C'était une belle métaphore, je trouve, de la tournure que peut prendre la vie. C'est-à-dire que, voilà, on a chacun à la base, hein, comme cette grosse pastèque, un fruit, et puis après, on la sculpte et on peut en faire quelque chose de complètement unique. Et voilà, du coup, c'était à cet objet-là que j'avais pensé.
Avec un côté un peu éphémère, parce que, enfin même complètement éphémère, parce que cette pastèque, il y a un moment, elle va pourrir.
Ouais, on va la savourer, on va la manger.
Ouais.
C'est vrai. Et elle leur a laissé un très beau moment de... Enfin, moi, à chaque fois, ça me laisse des très beaux moments de vie, ces moments de sculpture.
Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est qu'en fait, cette pastèque, enfin, t'as appris l'art de sculpter sur des fruits à Bali grâce à une rencontre que tu as faite lors d'un voyage.
Ouais, exactement. Une rencontre avec... en fait, à Bali, ils font beaucoup de... je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais ils font beaucoup de tourisme local. Comme il y a beaucoup d'artisanat local, en fait, les artisans se proposent, en fait, de faire des cours chez eux, de découverte de leur technique. Et donc, moi, comme ça, j'avais l'occasion d'aller chez un sculpteur sur fruits.
Génial.
Et j'avais été... Enfin, j'ai passé un moment absolument fabuleux et puis voilà, je suis très, enfin, j'aime beaucoup de toute façon tout ce qui est manuel, artistique. Et à la fin, je suis repartie avec ce petit couteau. il m'a vendu ce petit couteau pour que je puisse continuer.
Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu es née, s'il te plaît ?
Alors, je suis née oui, à Moutier, donc en Savoie, dans les Alpes. Et après, j'ai surtout grandi à Grenoble, enfin, à côté de Grenoble.
D'accord.
Dans le Vercors.
Et quel type de petite fille tu étais ?
Alors, moi, j'ai énormément de souvenirs de ma toute petite enfance. La période 3-6 ans, j'ai un souvenir vraiment de une petite fille bouillonnante de vie. Et je pense que j'étais un peu... Enfin, je crois que j'étais un peu connue comme le loup blanc dans le village. Je sais que j'allais très facilement... Enfin, sur la place de village, je connaissais tout le monde. À 3-4 ans, j'allais taper la discute à mes voisins, je pouvais, voilà, enfin, je me sentais en fait assez assez autonome et indépendante en fait, très vite. Voilà, j'ai des souvenirs aussi de et ça j'y repensais, je me dis parfois tiens, c'est un petit clin d'œil à ce que je suis aujourd'hui, mais à 4 ans, mon papa fêtait ses 40 ans et on m'en parle encore toujours parfois. C'était moi qui faisais la réception des invités.
C'est fou,
cette grande fête. Et voilà, maintenant, j'ai mon fils qui a passé aussi le cap des 4 ans et je me dis, bah ouais, j'étais pas grande. Et voilà, donc j'ai vraiment un souvenir de voilà, beaucoup, beaucoup d'indépendance et de ouais, soif de vie. Voilà, et après, je dirais que j'ai été une petite fille beaucoup plus sage à partir du primaire.
D'accord, pourquoi ?
Pourquoi disons, je pense que déjà j'ai quitté mon, enfin j'ai au niveau scolaire j'ai changé d'école. Je suis passée de l'école de village à une école de ville. J'ai quitté aussi tous mes amis. Et je pense que j'étais un peu déboussolée. Et du coup, je pense que je me suis beaucoup raccrochée en fait à ce qu'on attendait de moi, ou en tout cas aux standards de l'école. Et voilà, j'avais des bonnes notes, etc. Et du coup, je pense que je me suis beaucoup plus raccrochée à ça, à faire ce qu'on attendait de moi.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que
voilà.
tu rentrais plus dans la norme ?
Ouais, voilà, je pense que je suis ce côté très, très indépendant et très créatif a été un peu mis de côté.
Ouais. Et avant du coup que tu rentres entre guillemets dans la norme, c'était quoi tes rêves de petite fille ?
Moi je me rappelle d'une chose que, enfin, déjà j'avais plein d'idées, plein de projets. Je sais qu'avec, même avec les copines, on avait 3, 4 ans, 5 ans max. Franchement, j'avais plein d'idées, de projets à faire pour de cours à donner, enfin voilà. Et puis, mais sinon, le truc qui me faisait rêver, ça reste un peu dérisoire, mais c'était de tenir un bureau de tabac.
D'accord.
Ce qui paraît un peu bizarre, mais en fait, j'avais un bureau de tabac en bas de chez moi. Ils disaient que je voulais être bureau de tabacienne parce qu'ils vendaient les bonbons. Ils vendaient les bonbons, des jouets. Et moi, c'était... ils tenaient sa petite boutique et je trouvais ça... j'aimais beaucoup aller là-bas. Donc voilà, c'était, je dirais, si je dois me dire qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais toute petite, c'était ce métier-là qui me faisait... que j'idéalisais. Mais voilà, c'était vraiment toute petite. Après, je dirais plus tard, moi, c'est plus tout ce qui touchait à la bio qui m'a toujours beaucoup touchée. Je me rappelle au collège d'une rencontre avec mon professeur, un prof de bio qui était absolument passionnant. Et là, je crois que c'est la première fois où je me suis sentie vraiment touchée par le monde dans lequel on vit, par la façon dont fonctionne la vie, en fait, la vie humaine, la vie de la planète. Et voilà, même si pour autant, je ne me projetais pas forcément dans un métier par rapport à ça, je crois que ça a été quand même un moment, une expérience forte cette année-là.
Quelque chose qui a résonné fort en toi
Ouais.
Et c'est quelque chose, du coup, que tu as travaillé après ou c'était juste quelque chose qui était rentré en toi, mais sans grande conscience, entre guillemets ?
Si, je pense que ça a réveillé quelque chose parce que des années plus tard, je me suis rappelée de ces moments-là. Et en fait, les choses ont ça a pris du sens en fait. Si tu veux, moi, au moment de mon orientation, j'avais beaucoup hésité entre pas mal d'orientations différentes, notamment soit dans la médecine, la pharmacie, voilà, tout ce qui touche à la bio, l'agronomie ou le commerce. Ce qui est pas pareil. Mmh. Voilà, c'est entre bureau de tabac et bio. Et en fait, en sortant d'école, donc après j'ai fait école de commerce.
Qu'est-ce qui a fait du coup que tu as choisi l'école de commerce plutôt que ce domaine-là?
Alors très honnêtement, en fait, en terminale, j'étais inscrite en pharma. Je m'étais même inscrite en prépa pharma. Et en fait, c'était au dernier cycle, enfin dernier trimestre de terminale, on fait la chimie moléculaire. Et en fait, on m'a expliqué que c'était l'essentiel de pharmacie. Et en fait, c'était la première fois que je découvrais cette matière et je sentais que j'accrochais pas du tout. Je me suis dit, en fait, donc ça m'a mis le doute. Et en fait, en parallèle, alors ça, je le savais pas à l'époque. Mais j'étais quand même très paumée sur ce que je voulais faire. J'hésitais tellement avec plein de choses que je ne voyais pas bien clair. Et j'ai ma maman qui est très croyante. Et j'ai appris après coup qu'en fait, elle avait beaucoup prié. Elle m'a dit, j'avais prié 9 jours pour toi. Et en fait, à la fin de ces 9 jours, donc moi, je ne savais pas qu'elle faisait ça. Une nuit, donc là, j'étais inscrite en pharma, je me réveille et je me dis, je ne peux pas faire ça. Faut que je fasse prépa école de commerce. Et le matin, je suis allée la voir et je lui dis, je me désinscris de pharma. Je m'inscris en prépa HEC. Et du coup, voilà. Du coup, pour elle, ça a été, elle me l'a dit quelques temps plus tard. Elle s'est dit, bon bah ok, c'est assez fort. Même si c'est pas du tout le genre d'études qu'elle imaginait, je pense.
Pourquoi?
Elle a complètement suivi ce choix. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle n'avait pas forcément une bonne image du côté commercial.
D'accord. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait ou ce qu'elle faisait?
Ma maman, elle était prof d'anglais.
Ok.
Et puis après, elle a eu 4 enfants et donc elle s'est consacrée à élever ses enfants.
Ce qui est un beau métier.
Grosse tâche. Ouais. Exactement.
Et ton papa?
Et mon papa, donc là maintenant, il est à la retraite et il était ingénieur en chimie.
D'accord. Donc loin de l'univers de la prépa HEC.
Ouais, en effet, assez loin. Et voilà, du coup, pas forcément avec une image, je pense avec une image très, très positive de ce vers quoi ça pouvait déboucher. Enfin, je pense qu'il redoutait ce côté peut-être très axé sur l'argent, la finalité de l'argent et tout, là où. Voilà, je pense que ils avaient en tête plutôt des métiers plus altruistes. Bon, finalement, comme quoi, on arrive à rejoindre les deux bouts.
C'est clair. Et comment ils ont vécu ça, du coup, quand tu t'es inscrit en prépa HEC, comment ton papa l'a accueilli?
Déjà, je te dis, mais j'ai su longtemps après, mais cette histoire... Enfin, voilà, ma maman, la synchronicité en termes de timing entre ma décision et elle, ses démarches exactement l'ont confortée. Elle a complètement accepté ce choix. Et puis bon, in fine, ça reste, c'est pas non plus des études. ça reste des très bonnes études.
Oh oui, c'est clair. Donc,
voilà, ça du coup, en fait, on peut être quand même très fiers aussi. Après, j'ai fait prépa, j'ai intégré une bonne école. Voilà, je pense qu'ils étaient aussi très fiers, hein, quand même.
Oui. Et quand, du coup, tu as intégré l'EM Lyon, à ce moment-là, j'imagine que tu as dû faire une spécialité finance, marketing ou commerce. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Alors, moi, ces années d'école ont été des grosses années de réflexion parce que, voilà, je m'étais inscrite là parce que je sentais qu'il y avait... Il y a des choses qui bon, plein de sujets qui m'attiraient, et en même temps ce côté je dirais recherche de l'argent pour la, enfin avant tout qui quand je suis rentrée en école de commerce, le premier cours qu'on a eu, c'était sur la mission d'une entreprise. Première question, c'était quelle est la mission d'une entreprise, et réponse du professeur, c'était to maximize profit. Donc, moi, ça a été... OK, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est, ouais. C'est vraiment ça que je veux... est-ce que c'est ce but-là que je veux poursuivre dans ma vie? Et donc, en fait, moi, la période d'école de commerce a été vraiment une période de quête, de remise en question, où j'étais un peu perdue. Et du coup, j'ai testé pas mal de choses. J'ai fait de la pub, j'ai fait de l'audit. Je voulais pas forcément rentrer dans les cases. Et par exemple, au début, je voulais pas faire de marketing parce que j'ai l'impression que c'était trop une case classique. Et puis finalement, en fait, je fais un stage d'études en marketing sur des produits cosmétiques. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le métier. Et après, moi, ma réflexion a été comment j'arrive à faire ce métier avec quelque chose qui a quand même du sens pour moi. Et en fait, c'est là que tout s'est allié, c'est qu'en fait, à travers mes réflexions, je suis revenue à cet intérêt très très fort pour la bio, pour le vivant. Et du coup, je me suis orientée vers le secteur de la santé. Et donc, j'ai fait du marketing dans la santé. Et j'ai adoré ce que j'ai fait. En vrai, j'ai appris énormément de choses. C'est un secteur qui m'a passionnée.
Et je rebondis là sur ce que tu disais sur ton professeur qui disait bon le cours sur la mission. Vous êtes chez ChangeNow, vous êtes une entreprise à mission.
Oui, enfin en tout cas on s'est constitué comme tel, c'est-à-dire avant tout notre objectif n'est pas de faire du profit. Notre objectif est d'avoir un impact positif. Donc ça c'est la quelle est la mission de ChangeNow? Elle est d'accélérer le changement vers un monde durable, d'accélérer les solutions qui changent le monde. Et après, on cherche en revanche un modèle économique viable pour pouvoir, pouvoir mener nos actions.
Parce que vous êtes une entreprise. Vous êtes une entreprise, ouais.
Ouais, on est en statut entreprise avec dans les statuts, c'est indiqué que les bénéfices sont reversés pour la mission, etc. Bon, même si il faut déjà un certain temps avant de. Enfin, pour l'instant, le sujet n'est pas au niveau des bénéfices. Hein, mais
ouais, ça sera le sujet d'après.
Mais oui, en tout cas, c'est clairement avec cette vision de l'entreprise qu'on a créé ChangeLa.
D'accord. Et donc, du coup, ta carrière professionnelle, donc tu commences dans un labo pharmaceutique. Tout se passe très bien. À quel moment tu as une grande prise de conscience, en fait, sur le fait que c'est plus ce que tu as envie de faire?
Ouais, alors en effet, moi, ça se passe super bien. En vrai, vraiment, j'aime beaucoup et ce que je fais, enfin le métier, le secteur dans lequel je travaille. Je travaille sur des produits en plus que je trouve super intéressants. Je lance une nouvelle gamme d'huiles essentielles. Donc, je me forme aux huiles essentielles. Je travaille sur des produits de pédiatrie naturelle. Je travaille sur des gels hydroalcooliques, d'ailleurs.
Ouais.
Le leader des gels hydroalcooliques à l'époque. Hein, il est peut-être toujours, d'ailleurs. Je sais pas, là, en ce moment, il y en a tellement. Mais voilà, j'étais arrivée au moment de la grippe H1N1. Donc, je dirais notre répétition de la situation actuelle, qui finalement ne s'est jamais transformée en pandémie, mais qui avait donné lieu à une utilisation massive des gels hydroalcooliques. Donc, j'étais arrivée aussi sur ce sujet-là. C'était hyper intéressant. Ça me plaisait énormément. Et aussi, l'entreprise me plaisait beaucoup. C'est que c'était une entreprise familiale assez paternaliste avec un homme, en fait, à la tête qui avait repris cette entreprise, qui l'avait redressée et qui restait, en fait, à la tête de cette entreprise. On était tous les lundis en discussion avec lui sur les décisions stratégiques. C'était quelqu'un d'assez charismatique. Et voilà, du coup, je savais pourquoi je faisais ça, pour qui je le faisais, et en plus avec dans une équipe qui était avec des collègues et je m'entendais vraiment très bien. Donc ça pendant 2 ans ou 3 ans. Et puis après, il y a eu un changement dans l'entreprise, c'est que mon PDG, qui était aussi féru d'aviation, a eu un accident d'avion et donc il est décédé. Et du jour au lendemain, du coup, on n'avait plus notre patron. Ça a été après vendu à un fonds d'investissement. Et je dirais déjà, la mentalité a changé. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai fait aussi mon temps j'ai eu une autre opportunité. Donc, j'ai rejoint la filiale santé d'une multinationale sur un projet qui semblait assez passionnant. Je me suis retrouvée complètement dans un autre type d'entreprise, pas du tout paternaliste, complètement capitaliste. Et là, je me suis vraiment pas retrouvée dans ce modèle-là.
Et quand tu dis que tu t'étais pas retrouvée même dans le laboratoire, donc Cooper, où t'étais avant, j'imagine que ça a dû être quand même quelque chose de très difficile à vivre humainement, de perdre cet homme que t'admirais et qui vous montrait le bon chemin pour l'entreprise, et puis professionnellement, parce que comme tu disais, quand c'est un fonds qui reprend, on va dire que les règles du jeu changent. Toi, comment du coup tu as vécu tout ça?
Je dirais, moi, pendant un temps, je l'ai vraiment vécu aussi en mémoire de tout ce qui a été construit. Il y avait aussi une vraie fidélité vis-à-vis de l'entreprise. La volonté que ça continue bien. Donc, pendant un certain temps, en vrai, je suis restée très, très attachée à l'entreprise. Et puis, voilà, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, bon, je pense que j'avais besoin aussi de voir autre chose. Et puis finalement, ce qui m'accrochait à fond au début, je le retrouvais moins. Donc voilà, quand j'ai eu cette autre opportunité, je me suis dit, il y a peut-être un besoin d'un souffle nouveau. Voilà.
Et quand du coup, chez Nestlé Health Science, quand tu as commencé et que tu t'es rendu compte que ça, que c'était pas vraiment là où tu étais à ta juste place, entre guillemets, comment est-ce que tu as eu des symptômes physiques ou des choses qui te. Comment tu t'es sentie pour te dire qu'en fait, ça le faisait pas?
Oui, en fait, j'avais senti qu'il y avait des choses. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait assez vite marqué, c'était de voir la. Je suis arrivée sur un nouveau projet qui avait été proposé à. Je pense qu'il avait été validé par la direction, mais même c'était une direction monde, quoi. C'était vraiment un projet mondial. Mais avec des chiffres, qui étaient sur un secteur qui n'était pas le secteur de l'entreprise, qui était le secteur d'où je venais, moi, l'OTC. Et avec des chiffres qui me paraissaient assez déconnectés, en fait, de la réalité de du terrain.
C'est quoi l'OTC?
L'OTC, c'est over the counter, c'est les produits vendus en pharmacie sans ordonnance. Voilà, les médicaments vendus en pharmacie sans ordonnance. Première chose qui m'interpellait, c'est qu'en fait, il y avait des objectifs, et je pense que c'était nécessaire d'avoir de tels objectifs pour qu'un projet passe, mais en même temps, ils étaient déconnectés pour moi de. Enfin, je ne voyais pas comment c'était réalisable, en fait, sur le terrain. Ça s'est vérifié après. Mais du coup, on devait travailler vraiment très, très, très dur pour essayer de courir après des chiffres qui avaient été mis dans un tableau Excel. Moi, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et à ce moment-là, j'avais une visite médicale du travail. Et le médecin, comme j'avais beaucoup de transport, m'avait prescrit un jour de télétravail. Et en fait, rien que ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est là que j'ai senti qu'en fait, on cravachait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On s'arrêtait jamais. Et ce jour de télétravail me faisait une bouffée d'oxygène. Sauf que on m'a tout de suite expliqué que là, c'était dans le cadre de la grossesse, mais qu'en revanche, c'était un point absolument catégorique de la part de la direction, qu'il était que le télétravail ne pourrait pas être envisagé après. Donc là, je me suis dit, mince, je vais avoir un bébé et je vais me retrouver. Il n'y a aucun levier aujourd'hui pour avoir un peu d'air, quoi. Et donc après, moi, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, je vais avoir besoin d'air, en fait, sinon, c'est pas possible. Je sentais qu'on était. Il y avait quand même une pression permanente. Et donc, j'avais demandé à revenir à 80%. Au moins les premiers mois, en fait, même, parce que j'avais, c'est un bébé qui arrivait dans ma vie, je sais pas ce que ça allait représenter comme charge de travail, mais je soupçonnais que ça allait être quand même pas mal de boulot. Et puis en fait, là, on m'a dit que c'était pas possible, qu'il fallait être à 100%. Et donc, là, je me suis dit, ok, en fait, est-ce que c'est compatible, quoi? Et donc, je suis partie en congé maternité avec.
Tu avais demandé, avant de partir en congé mat, tu avais demandé à être en
congé. Non, j'avais demandé juste après la naissance du bébé, au bout de quelques semaines. Ouais. J'étais venue, j'avais demandé. Et donc, voilà, du coup, j'ai eu, pour la partie de mon congé maternité, je savais que le retour n'allait pas être pas être idéal. Et en fait, même, ça m'a, je me demandais comment j'allais pouvoir réorganiser ma vie, quoi. Voilà. Et puis surtout, en fait, une chance que j'ai eue pendant mon congé maternité, c'est que mon mari, qui travaille en start-up, sa start-up a fermé. Et donc, il a été libre à ce moment-là. Et en fait, on a été tous les deux libres et on a décidé de partir. On a décidé de partir sur la route, de faire un road trip avec notre bébé. Il avait 40 jours et on est parti 40 jours sur la route. Et là, même si du coup, j'avais ces questions qui me... voilà, beaucoup d'interrogations sur la suite, bah, j'ai un peu mis ça de côté et on a décidé de vivre cette période-là à fond. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont germé et finalement, ça a ouvert, je trouve, un nouveau champ des possibles. Et
c'était quoi, ce road trip ?
Ce road trip, on est parti entre France et Espagne, enfin en France et en Espagne, jusque quasiment dans le sud de l'Espagne.
En voiture, ouais.
Et avec plein d'étapes. On en a profité en fait aussi pour voir plein de monde, famille, amis, personnes qu'on connaissait pas forcément non plus. Voilà, plein d'étapes. Et en fait, on s'est rendu compte que à chaque étape, il y a un moment, ça nous a frappé. On s'est dit, mais en fait, toutes les étapes qu'on a fait, on a rencontré que des personnes qui ne sont pas dans des cases, qui sont sorties des sentiers battus, qui ont inventé leur vie. Voilà, des amis qui avaient complètement changé de vie, d'autres qui depuis le début avaient inventé quelque chose complètement sur mesure. Et donc je crois que peu à peu il y a aussi plein de barrières qu'on sautait jusqu'au moment même où nous-mêmes on s'est dit, au début on faisait ce road trip avec un programme. On savait à peu près combien de jours on partait, où est-ce qu'on allait dormir les nuits suivantes. Et puis à un moment, en fait, on savait plus. On s'est dit, mais en fait, et si on rentrait pas, et on sait pas quand on rentre. Et en fait, tout d'un coup, notre vie est devenue très très libre. Et là, c'était plus un voyage programmé, c'était une aventure.
Et aventure avec, ouais. Disons-le, avec un bébé de 40 jours, sachant que si ma mémoire est bonne, vous êtes partie l'été, donc dans le sud de l'Espagne, il fait quand même très très chaud.
Ouais.
Et votre entourage, comment il a réagi quand vous avez dit on part avec notre bébé pendant en road trip dans la voiture ?
Je pense qu'ils n'ont pas été très rassurés. Je sais qu'on a eu quelques discussions avec mes parents sur le fait qu'il fait quand même 40 degrés, enfin ouais, bien, pas loin des 40 degrés dans le sud de l'Espagne, là où on va. Mais je dirais, nous, en vrai, ça ne nous a pas du tout arrêté. On s'est dit, enfin, ils font bien des bébés dans le sud de l'Espagne.
Ouais, comme en Afrique, hein. Ouais.
Ouais, voilà. Donc en fait, on s'est dit pourquoi nous, ils pourraient vivre que en France. Non, ça marche pas. Donc voilà, on s'est renseigné en gros sur comment, quand même, quelles sont les précautions à prendre par rapport au soleil, à la chaleur. Mais vraiment, voilà, on était assez confiants en fait. Et puis je pense que voilà, finalement, quand on est toujours assez déterminés, je pense que du coup, voilà, on pouvait pas tellement nous arrêter sur ce projet-là.
Génial. Et donc au final, vous êtes parti combien de temps ?
Et ben en fait, au final, on est vraiment parti 40 jours. Et en fait, finalement, la date de retour a coïncidé à peu près avec celle qu'on avait prévue initialement, mais de manière naturelle, en fait. Il y a un moment, il était, enfin voilà, c'était assez. On avait envie de rentrer parce que ça y est, il y avait des projets qui étaient en train de se dessiner. Et voilà. Du coup, le timing a coïncidé, mais je dirais là par non pas de manière imposée, mais ouais, vraiment par la force des choses.
Et c'est quoi, du coup, ces projets qui se préparaient ?
Bah, Change Now. En fait, moi, mon mari, il m'avait parlé de Change Now déjà quelques semaines avant. Et lui, c'était un projet qu'il avait en tête depuis un certain temps. Et quand il m'a décrit un jour son projet, un soir, je lui ai fait, mais waouh.
C'est quoi, alors, du coup, pour ceux qui connaissent génial. Pas pour ceux qui connaissent
ouais,
pas, c'était quoi c'était...
Et ben, le projet, c'était de se dire, et si on faisait on faisait un grand rassemblement, on rassemble tous ceux qui ont envie de changer le monde, tous ceux qui sont en train d'innover partout dans le monde. Et on fait venir à eux des investisseurs, des grands groupes, des médias, du public. Et on fait en fait cette grande vitrine, vitrine mondiale de l'innovation positive, pour donner envie de s'engager sur ces sujets et pour permettre à tous ceux qui sont en train d'innover d'avoir beaucoup plus de soutien. Donc voilà. Donc en fait, quand on reprend nos slides d'il y a 5 ans, c'est à peu près texto ce qu'on fait aujourd'hui.
Ah,
je dirais l'idée était vraiment là.
Ouais.
La vision était vraiment là. Mais on était très très loin d'imaginer un qu'on arriverait à le faire et deux que ça deviendrait ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais voilà, du coup, pendant une partie de notre trip, justement, j'avais dit à Santiago, qui passait aussi des entretiens pour rejoindre d'autres boîtes, j'ai dit, mais en fait, prenons le temps de creuser ce sujet à fond. À un moment, il avait un poste pour être CEO d'une start-up en Espagne sur les parkings. Tout, je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux ouvrir des parkings en Espagne ou tu veux changer le monde?
C'est pas pareil.
Voilà, c'est quoi l'ambition? Et donc là, on s'est dit, OK, on y réfléchit vraiment sérieusement. Lui, il avait quelques mois de chômage, pas beaucoup, mais je crois qu'il avait 4 mois de chômage. Il m'a dit, dans ce cas, je vais les consacrer à ça. Et donc voilà, pendant notre road trip, on avait vraiment commencé à mettre à plat ensemble les slides, la vision, le projet, pour qu'après on puisse continuer à le creuser.
Génial. Et donc au moment, donc toi t'es rentré de ton congé mat, donc Santiago commençait à bosser sur Change Now pendant son chômage, et toi donc t'es retourné au boulot ou comment ça s'est passé?
Ouais, moi je suis retournée au boulot. Et puis en fait, ça a été très douloureux comme retour. Voilà, j'ai très bien compris qu'en effet, il y avait besoin d'être à fond. Et en fait, moi j'ai senti même physiquement en fait que c'était ça n'allait pas être possible.
Qu'est-ce qu'il disait ton corps?
Ouais. Donc oui. En fait, quelque chose d'assez frappant, c'est que je me rappelle, juste avant de reprendre le travail, je me voyais dans le miroir et je voyais quelque chose d'assez... Je me voyais lumineuse. J'avais jamais vu ça, en fait. Et je pense qu'en effet, pendant ce road trip, il y a quelque chose, une lumière qui s'est réveillée, quoi, une flamme qui s'est allumée. Et je la voyais, en fait. Je sentais qu'elle me faisait... Elle m'éclairait, quoi. Et après 3 jours de reprise de travail... là où c'était très frappant, c'est que je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Je me suis vue complètement grise. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. donc voilà, je dirais le message était pour moi en fait très clair.
Ouais.
Donc,
le reflet du miroir. Et je reviens juste en arrière quand tu disais sur le fait que dans votre trip, vous avez rencontré des amis, de la famille et que des personnes qui étaient en dehors des sentiers battus. Comment vous l'avez vécu, vous? Vous êtes dit, est-ce que vous vous êtes dit, pourquoi pas nous? Est-ce que vous vous êtes dit, ils ont de la chance? Comment vous avez appréhendé ça?
En fait, je crois pas que je l'ai rattaché forcément à nous. C'est plus que je trouvais ça génial. J'étais super contente pour eux, en fait. Et en fait, c'est plus que... Au bout d'un moment, nous aussi, ce chemin de liberté, il s'est ouvert à nous. Et en fait, je crois que j'ai ressenti ce qu'ils avaient dû vivre, eux aussi. Et je sentais qu'en effet, ça sonnait vachement juste, quoi. Et donc, voilà, je dirais que c'était finalement assez normal. En fait, c'est plus que le fait d'avoir vu aussi plein de monde qui étaient sortis des sentiers battus et qui réussissaient, ça marchait, leur vie était belle, quoi. Ça m'a pas du tout fait peur, en fait, d'imaginer aussi, nous, qu'on puisse complètement réimaginer notre vie.
Ouais, ouais, ça avait un côté, entre guillemets, rassurant.
Ouais, rassurant. Et nous aussi, il y a cette aventure-là qui se dessine pour nous. Elle est complètement différente des autres, mais c'est presque c'est peut-être la nouvelle norme, en fait, finalement, de enfin, ça devrait être la norme, en fait, d'avoir, de se créer sa vie sur mesure. C'est une phrase que j'aime beaucoup, là, que j'ai lue récemment. Quelqu'un qui dit, qui disait, on est tous comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies.
Ah, c'est chouette, ouais.
Et voilà, je pense qu'en effet, on a, là, on redevenait des originaux.
Ouais, ouais, on est, on est tous différents, enfin, quand on est petit, et plus on grandit, plus on rentre dans la vie d'adulte, et plus on veut rentrer dans des cases, et on se perçoit même, en fait.
Ouais, voilà, on va chercher ce que le monde, ce qu'on pourrait faire, le champ des possibles dans un monde qui existe, alors qu'en fait, on a déjà tout en nous, quoi.
Ouais, c'est clair. Et donc, du coup, donc, là, tu te vois grise dans le miroir, tu te dis, c'est pas possible, je suis en train de me perdre. Du coup, qu'est-ce que tu fais?
Bah, du coup, en fait, assez vite, j'en parle à ma responsable. Je lui explique la situation. Après, voilà, il y a des politiques de groupe. Donc c'est pas forcément accueilli avec... En tout cas, d'un point de vue, je ne sais pas après humainement, mais d'un point de vue politique de groupe, ça a été compliqué. Donc, ça a été plusieurs mois de discussion. Mais bon, voilà, in fine.
T'as réussi à partir.
J'ai pu prendre mon envol, ouais.
Ouais. Et comment vos familles et amis proches ont réagi? Parce que, mine de rien, du coup, vous quittiez tous les deux une vie, entre guillemets, stable, bien rangée, pour une aventure, surtout sur quelque chose qui n'existait pas. Comment ça s'est passé?
Ouais, bah écoute, c'est vrai que récemment, on revoyait des photos. Et en fait, on s'est dit, mais ils ont été fous de nous laisser faire ça. Comment ils... on avait... On voyait des photos de notre fils qui avait un an. Et en fait, on n'avait toujours pas lancé le premier événement Change là, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de travail souterrain. Et on s'est dit, mais comment ils nous ont laissé faire ce projet? Ça dit, Après, je pense qu'on était quand même vraiment sûrs de... Enfin, pas sûrs de nous, mais assez déterminés. Et puis aussi, je pense qu'ils ont vu, moi, à quel point c'était le retour à la vie d'avant n'était pas possible. Donc, voilà, je dirais le fait que la reprise ait été si douloureuse envoyait aussi un message clair. Et donc, ils étaient même peut-être contents qu'il y ait d'autres perspectives.
Oui, c'est clair. Et donc, du coup, là, quand vous êtes lancés, vous étiez donc tous les deux avec Santiago pour lancer Change Now. Vous aviez d'autres personnes qui vous aidaient?
Alors, au tout début, il y a eu quelques personnes. En effet, Santiago, on a parlé à quelques personnes qui ont avec qui on a un peu mûri la réflexion, mais c'était assez ponctuel. On a quand même beaucoup travaillé au début tous les deux, et puis peu à peu, au bout de plusieurs mois, il y a quand même un groupe qui s'est constitué avec voilà des amis qui voulaient contribuer à la réflexion, et peu à peu ça s'est organisé de manière un peu plus structurée avec des réunions hebdomadaires. Et puis ça a fait boule de neige, quoi.
Et travailler avec son mari, c'était quelque chose qui était nouveau pour toi?
Ouais, bah complètement. C'est absolument pas un projet de vie, hein.
Ouais.
On n'a pas du tout signé pour ça à la base. mais en fait, ça s'est fait, je dirais, à notre grande surprise, à tous les deux, je crois. Ça a été plutôt une évidence qu'autre chose, en fait. C'est-à-dire que, enfin, je pense qu'on a appris, déjà, ça faisait quand même des années qu'on se connaissait. Et je dirais, il y a 10 ans plus tôt, je pense que ça aurait été impensable. Mais mine de rien, on a appris aussi à communiquer ensemble. On a appris à, enfin voilà, on se connaît. Hein. Et finalement, je pense que ça nous a aidé à pouvoir communiquer aussi dans le travail. Et en fait, ça a été, je pense qu'on a été un peu tous les deux surpris quand on a commencé à réfléchir au projet ensemble, de voir à quel point ça se faisait naturellement, et que même fallait qu'on le fasse ensemble, quoi. Qu'on s'aide, on s'aide énormément, et il y a une complémentarité qu'on ressentait.
Comment vous vous êtes dispatchés, du coup, les missions l'un et l'autre?
Alors franchement, on n'a pas du tout cherché à processer quelque chose. Franchement, on a fait au feeling, comme ça venait. Il y a des choses sur lesquelles on était tous les deux impliqués. On a tous les deux contacté des intervenants. Voilà, on a tous les deux fait du démarchage, etc. C'est plus en avançant dans le projet qu'il y a une fois qu'il a fallu créer une structure, que là on a commencé à se répartir des rôles et même plus vis-à-vis des autres personnes de l'équipe pour savoir à qui s'adresser dans tel et tel sujet. Donc voilà, on n'est pas du tout parti au début avec une idée en tête d'organisation.
Et donc le premier événement, il a eu lieu quand alors ?
Et donc le premier événement a eu lieu en septembre 2017 à Station F, qui venait d'ouvrir, donc avec l'ambition d'être le plus grand campus de start-up du monde, capacité d'accueil de 1000 start-up. Et nous, on s'était dit justement. Et là, on avait déjà on est trois associés en fait dans Change Now. Notre troisième associé était déjà aussi avec nous.
Qui est-ce du coup le troisième associé ?
Il s'appelle Kevin. Kevin, c'est quelqu'un qu'on avait rencontré. En fait, Santiago a fait l'INSEAD, un MBA à l'INSEAD. Moi, j'étais aussi allée vivre à Fontainebleau là-bas à ce moment-là. Et on s'est rencontrés là-bas tous les trois. Et là, en fait, on s'était dit ce genre de sujet, il faut qu'on les sorte des endroits, faut qu'on casse un peu les codes. Qu'on arrête de parler des sujets environnementaux et sociaux dans des endroits périphériques, en boîte cagette recyclée. Bon, je catégorise un peu, mais en fait, c'est ça, c'est l'avenir. Là, on parle de l'avenir du monde. Il faut être dans les plus hauts lieux de l'innovation. Et donc, en fait, ça c'était une évidence, avec ce nouveau lieu qui ouvrait, que c'était un super message à envoyer de pouvoir créer le Change Now là-bas. Et Station F nous a aussi complètement rejoint sur le projet, sur l'idée.
Oui, ça n'a pas été quelque chose de compliqué, parce que surtout qu'au lancement, ils étaient vraiment dans les feux de la rampe. Emmanuel Macron avait été là pour inaugurer. Enfin, ça s'est passé comment, du coup, pour pouvoir avoir le droit d'organiser votre... En plus, c'était le premier, donc il n'y avait pas le passif, quoi.
Oui, ça a été... en fait, les personnes qu'on a rencontrées ont vraiment cru au projet. Eux, ils avaient mis sur leur site internet qu'ils ouvraient le lieu pour certains événements, à condition que ce soit des événements qui changent le monde, qui repensent les codes, qui sont branchés sur l'innovation. Enfin, et en fait, sur plein de points, on se disait, mais c'est nous, quoi. Donc, on est venu les voir en leur disant, bon, voilà, on est complètement alignés. Et c'est vrai qu'ils ont, ils ont eu ce courage aussi de nous faire confiance. On a été, parce qu'en effet, on n'avait pas de passif, on n'avait jamais créé l'événement, etc. Mais sur la vision, en tout cas, on s'est vraiment retrouvés. Et puis, je pense qu'on était peut-être, on avait aussi peut-être l'audace de, enfin, n'ayant pas de passif, on n'avait pas peur de faire l'ouverture, de faire, en tout cas, d'être un des premiers là-bas,
d'essayer les plaques. Ouais.
Exactement. Et voilà.
Du coup, surtout que vous n'aviez jamais fait d'événementiel l'un et l'autre.
Alors, en fait, il se trouve qu'on a. Moi, j'en avais jamais fait. Santiago, on a fait un peu, notamment. Lui, il a grandi en fait dans le milieu du spectacle. Il a été magicien avant.
Ah ouais, génial.
Ouais. Donc, il y a eu plusieurs vies. Mais donc voilà, du coup, le milieu du spectacle, c'est voilà, il a vu quand même.
Il y a des codes.
Ouais, voilà, exactement. Et après, quand on s'est lancé, on a la startup qui avait fermé, dont je t'avais parlé, où travaillait Santiago, organisait notamment un événement, une job fair pour les startups de la tech. Et du coup, avec la fermeture de l'entreprise, cet événement fermait également. Or, c'était un événement qui avait une vraie utilité pour l'écosystème des startups. Et donc, on a décidé de le reprendre, d'en refaire une version. Et donc, moi, donc c'était un événement à plus petite échelle. Mais moi, et c'est un projet donc, qu'on a lancé tous les deux, qui nous permettait aussi d'avoir... il y avait un modèle économique qui était viable derrière. Et nous, qui nous permettait aussi de
vivre.
Exactement. Et donc, ça a été, moi, la première expérience de l'événementiel. Du coup, j'avais pu quand même... on avait monté un événement avant de lancer cette première édition de Change Now, où du coup, on a pu quand même apprendre un certain nombre de choses. Mais ça restait... Voilà, ça restait les démarrages, mais on ne partait pas non plus d'une page complètement blanche. Et finalement, ce premier événement, je pense, a été hyper important pour qu'on puisse faire Change Now.
Ouais. Et comment vous avez du coup financé la croissance de Change Now?
Comment la financer?
Vous avez fait une levée de fonds.
Non, justement, on n'a pas fait de levée de fonds. En vrai, ça a été un sujet hyper, pas difficile, mais ouais, compliqué à gérer pendant jusqu'à ce qu'on fasse une levée de fonds. L'an dernier, on a fait une levée de fonds, mais pendant 3 ans, on n'avait absolument aucun backup financier. Et donc, on a vécu au jour le jour, au mois le mois, financièrement. Ouais. Je dirais, il y a eu des moments où on disait, bah là, on va mettre la clé sous la porte. Paf, à ce moment-là, il y a un sponsor qui confirme. Et hop, ça nous donne un peu d'appel d'air. Mais on a été... ça a été quand même un gros saut dans l'inconnu. Et donc, on a été aussi hyper vigilants sur nos coûts. Alors, nous, à titre personnel, on a clairement revu notre façon de vivre.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez changé, du coup?
Moi, clairement, mon rapport à l'argent a complètement changé parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes moyens financiers. Et il y a plein de choses qu'on a coupées et en fait, dont on s'est débarrassé en vrai assez facilement. Je trouve même qu'il y a quelque chose d'assez bon. Et ça, en fait, à retrouver un peu plus de sobriété. Donc voilà, en termes de sortie, de voyage, même d'affaires, d'achat de vêtements. Enfin voilà, j'achetais beaucoup moins et ça fonctionne très bien aussi. Même je m'en sens mieux, je me porte mieux quoi. Donc voilà, à titre personnel et puis au niveau de l'entreprise aussi, on a créé l'événement avec toute l'ingéniosité qu'on a pu trouver. Pour donner un exemple, on voulait qu'il y ait représenté tous les drapeaux de chaque pays qui était représenté à Change Now. Donc la première édition, c'était 47 pays qui étaient représentés. Ça, quand on en a parlé à notre agent, à notre directeur de production, il nous a dit, mais ça, oula, ça c'est au moins 10 à 15 000 euros.
Ah, c'est très, très cher, un drapeau. On le sait pas, je sais même pas comment je sais ça, mais je sais qu'un drapeau, ça coûte, ça coûte une fortune.
Ça peut coûter très cher, toute l'installation, la scénographie et tout ça. Et on s'est dit, non, mais pardon, c'est pas possible, on n'a pas, on peut pas faire ça. Santiago a trouvé sur Internet des drapeaux à coudre. On les a commandés, il y a ma belle-mère qui nous a aidé à coudre les drapeaux, on a acheté des tringles et des socles, et en fait on a tout fabriqué nous-mêmes pour très très peu d'argent, on a fait quelque chose qui avait un rendu très quali. En vrai, même le dire prod était impressionné du rendu que ça pouvait avoir. Après on a aussi nous beaucoup challengé en fait certains codes de l'événementiel chaque ligne ne coûte pas forcément 10 000 euros. On peut repenser les choses et donc finalement on a pu comme ça tenir un événement, même si on n'avait pas un gros budget. On a réussi à faire un événement qui avait vraiment une belle allure en mettant les moyens uniquement là où c'était absolument nécessaire et en repensant aussi pas mal d'autres choses.
Et donc du coup, à quel moment vous vous êtes dit il faut qu'on fasse ou on a besoin d'avoir une levée de fonds?
On savait que là, en fait, pour la troisième édition, en fait, on savait qu'on en avait besoin. En fait, depuis le début, ce projet, on s'est dit le lieu rêvé pour faire ça, ça serait le Grand Palais. C'est historiquement. Symboliquement, c'est très fort. Change Now, ça s'inspire aussi des expos universels, de cet esprit des expos universels, de se dire l'expo universelle, c'était une période de révolution, la révolution industrielle. Et pour accompagner cette révolution industrielle, on était allé chercher l'état de l'art, de ce qui se fait partout dans le monde. On est rassemblé en un seul lieu pour montrer au public, montrer à tout le monde ce progrès de l'époque et le faire adopter. Et en fait, on a aussi pensé Change Now avec dans cet état d'esprit. On se dire, là, on va chercher l'état de l'art de ce qui se fait bien dans le monde pour construire un monde durable, des actions concrètes qui sont menées, on les rassemble et on en fait une grande vitrine. Et donc, retourner dans un lieu comme le Grand Palais, symboliquement, c'était hyper fort. Et puis aussi, esthétiquement, c'est un lieu qui est baigné de lumière, qui est profondément beau, qui faisait un vrai écrin pour, pour ces sujets-là. Et donc, en fait, au sortir de la deuxième édition de Change Now, notre première édition, on a eu 2000 participants, on avait 47 pays représentés, on avait quoi, 250 intervenants, je crois, sur scène. Deuxième édition, on était à 6000 participants, on était toujours à Station F. Et c'est au sortir de cette deuxième édition qu'on a un rendez-vous avec le Grand Palais et qui, là, nous propose des dates pour la troisième édition. Et là, on est comme des fous. On se dit, waouh, c'est... Donc, on va visiter le Grand Palais. Et enfin, c'est vertigineux parce que le lieu, si on passe d'un 2000 mètres carrés à un 15 000 mètres carrés, voilà, c'est un lieu qui nous faisait rêver, qu'on n'imaginait pas pouvoir envisager si vite. Et en même temps, on se dit, ben, c'est peut-être qu'une seule fois dans notre vie qu'on nous proposera cette opportunité. Ok, on y va. On sait pas comment on va le faire, mais on va le faire.
Ouais, parce que j'imagine que quand tu réserves le Grand Palais, bon, déjà, le coût pour réserver le Grand Palais doit être conséquent. Et puis, ça veut dire, faire l'avance. Et puis après, il faut le remplir.
Mais bien sûr. Ouais, non, c'est un lieu à travailler. C'est un budget. C'est pas du tout le même budget que les deux éditions qu'on avait faites avant. Et on en était tout à fait conscient. Mais voilà, on savait aussi, on avait vu aussi la traction qu'il y avait eu sur les deux premières éditions. On avait aussi validé le concept et le potentiel en fait de cet événement. On avait vu les témoignages de ceux qui étaient venus, à quel point c'était puissant. Et donc on s'est dit, nous on est là pour encourager, pour aider les projets à passer à l'échelle. En fait, nous aussi, on voit l'impact qu'on a. Nous, on n'est pas une solution en tant que telle, mais on est une solution pour les solutions. Et en fait, on a un impact. Et à nous aussi, finalement, de déployer notre impact à grande échelle. Donc voilà, on sentait que ça sonnait aussi très juste de faire ce grand saut. Et donc, c'est là qu'on a... Après, on a mis à plat le budget, etc. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, à tel moment, on aura besoin de faire une levée de fonds. Donc, on s'est mis en ordre de marche pour ça.
Ouais. Et donc, comment ça s'est passé, la levée ? Parce que j'imagine que tu voulais pas n'importe quel fonds.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais on a rencontré plusieurs fonds d'impact. On a aussi beaucoup quand même cherché à se développer. Enfin, on a essayé quand même au maximum de se développer de manière indépendante. Donc, il y a eu tout un travail, nous aussi, de toute façon, de commercial. En direct, mais après voilà, on sentait qu'on avait besoin de fonds, donc il y a eu les fonds d'impact et puis on avait aussi rencontré les échos qui on avait commencé à avoir des échanges sur le sujet et finalement il y a beaucoup de synergies, hein. Donc les échos, le Parisien, il y a beaucoup de synergies qui sont apparues entre ce qu'on pouvait faire ensemble, j'irais au-delà d'une levée de fonds, en fait, des synergies industrielles, des synergies de visibilité média, de mise en avant de contenu, etc. Et du coup, c'est finalement auprès du groupe Les Échos, Le Parisien, qu'on s'est orienté.
Génial.
On s'est tourné.
Donc là, ça s'est passé comment, du coup, l'édition, donc c'était de 2020 au Grand Palais?
Ouais, c'était en janvier, fin janvier 2020. Au Grand Palais, et écoute, ça a été une édition exceptionnelle. Enfin, on s'est dit, mais on, je sais pas si un jour on revivra ça dans notre vie. On va avoir plein d'autres éditions, mais celle-là était assez dingue parce qu'on l'a vraiment portée à bout de bras. En fait, on était une petite équipe, hein. Donc on avait commencé à structurer une équipe.
Vous étiez combien?
On était une dizaine.
D'accord.
Et après, à l'approche de l'événement, bien sûr, il y a plus de monde, on s'est entouré d'agences, etc. Mais vraiment, pour porter le projet, on était une dizaine et c'était, on sentait que c'était même presque pas normal, en vrai, qu'un projet aussi qui devenait aussi grand soit porté par aussi peu de personnes. Et même parfois, moi, je me disais, mais pourquoi nous? Pourquoi pourquoi moi, d'ailleurs, c'est ton podcast, hein. Pourquoi pas moi, c'est pourquoi moi. Donc voilà, nous on l'a vraiment, on s'est donné à 400%, on était tous hyper motivés par ce projet, on était, et donc on l'a vécu avec une intensité assez hyper grande, quoi. On était hyper émus tous quand l'événement s'est passé. Moi, j'ai perdu ma voix le jour de l'événement. J'ai eu une extinction de voix.
Ouais.
Et je me dis, je pense que je suis allée au bout, en fait. Ouais. Je suis allée au bout pour le porter, cet événement. J'étais enceinte de 6 mois, en plus. Donc, c'était... Ça a été un énorme challenge. Et en même temps, le résultat était super beau. On a eu esthétiquement, c'était super beau. Les projets étaient canons. On a eu un niveau d'intervenant, je dirais, qui est assez rare. Il y a très peu d'événements dans le monde qui ont une telle qualité éditoriale. Et puis on a eu, les événements précédents, je disais, on était 2000, 6000, et là on a eu plus de 28 000 personnes.
Ah, c'est fou.
Donc ça a été assez, c'était hyper fort, quoi.
Ouais. Et la prochaine édition, du coup, ne pourra pas avoir lieu au Grand Palais.
Non, parce que le Grand Palais est fermé. Maintenant, ça sera, mais on sera fin mai.
On espère.
27, 28, 29 mai. Voilà. C'est disons du coup, vu le contexte, on sera dans un format hybride, avec en effet forcément un gros volet digital, qui nous pousse aussi à réinventer les codes. Hein. Mais quand on revoit l'édition 2020, on se dit, là en fait on venait de fêter les 1 an, il y a quelques jours, et je me rappelais, je me suis dit, mais en fait, en janvier 2020, je ne sais pas si tu te rappelles, décembre 2019, janvier 2020, c'était des énormes grèves.
Ouais, bien
France,
sûr, ouais.
Tous les métros paralysés, etc. Ouais. Tous les jeudis, t'avais grosse grève, tout était bloqué.
Ouais.
Et nous, notre événement commençait un jeudi.
D'accord.
Et en fait, la semaine de notre événement, c'est la seule semaine où la grosse grève a eu lieu un mercredi.
Oh, truc de fou. Hein.
Truc de fou. Donc le jeudi, l'événement a pu se tenir complètement normalement. Et on avait le Covid, on commençait à entendre parler du Covid. Et nous, en fait, dès qu'on a entendu ces débuts de pandémie, on s'est dit, oula, mais ça, c'est le pire truc qui puisse arriver à un événement, quoi. on a vraiment croisé les doigts. En effet, le soir du premier événement, l'OMS déclarait l'état d'urgence. Le 30 janvier 2020, l'OMS déclarait l'état d'urgence. Et on s'est dit, mais ça se trouve, est-ce qu'on pourra réouvrir demain? On ne savait pas. Finalement, si, on a pu. C'est que quelques semaines plus tard que tout a, enfin,
ouais, ouais, tout a été
quelques jours plus tard que tout a été bloqué.
Ouais.
Et du coup, on a vraiment été dans une fenêtre de tir assez.
Tu dis qu'il y a quelque chose là-haut qui vous a protégé. Est-ce que ta maman avait refait les prières?
Mais on l'a tous fait. Il y avait pas qu'elle là. On était. Ouais, on était. Je pense qu'il fallait qu'il se passe cet événement. Et même, je dirais, notre parcours là, il a été semé d'embûches. Et finalement, je pense qu'il fallait que. Là, je parle au passé, mais en fait, non. Enfin, il faut qu'il se passe. Ce genre de rassemblement doit avoir lieu. Et voilà. Ça a été une confirmation ce jour-là.
Ouais. Ouais, finalement, comme tu disais, là, vous avez dû réinventer les codes là, pour l'édition de mai. Mais finalement, ça va pouvoir permettre aussi à beaucoup plus de personnes de pouvoir y assister parce que tout le monde ne peut pas se rendre à Paris. Et comme votre conférence, elle est en anglais, vous pouvez toucher le monde entier, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. On se dit finalement, ça nous pousse à enclencher la vitesse du digital qui, de toute façon, aurait dû être enclenchée à un moment ou un autre. Parce qu'en effet, on a un contenu, une qualité de contenu qui gagne à être partagé partout. Quoi. Quand on a créé Change Now, on était aussi baigné dans l'univers des TED.
Ouais. Ah oui, c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser.
Ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment dans cet esprit-là. Le contenu de Change Now, c'est aussi du contenu, c'est assez dynamique, c'est des formats assez courts, mais avec du partage d'expériences ou d'actions très concrètes. Et ça gagne à être diffusé. Donc on savait qu'à un moment le digital allait être un levier à activer.
Ouais. Ouais, ça vous a forcé à y aller, quoi.
Donc voilà, du coup on se dit prenons le côté positif des choses, ça nous met le pied à l'étrier.
C'est sûr. Et là du coup donc ça va être digital et physique. Donc là où est-ce qu'il va avoir lieu?
Donc, le Grand Palais, en fait, ouvre un nouveau lieu qui s'appelle le Grand Palais éphémère sur le Champ Mars, qui est une structure qui est conçue pour 4 ans jusqu'au JO Paris 2024, qui hébergera en fait une partie des JO. Et donc, c'est dans ce lieu-là on continuera de faire Changela.
Super. Donc un lieu aussi pareil, le Champ de Mars, un lieu.
Mais bien, mais ouais. Exactement. Voilà, on est devant la Tour Eiffel. Ouais, et nous d'ailleurs, on s'était dit si c'est pas le Grand Palais, c'est le Champ de Mars. Donc voilà.
Ouais. Ça sera fait.
On y est.
Ouais. C'est quoi la réussite pour toi?
La réussite. La réussite, c'est juste de sentir qu'on est à sa place, quoi. Donc c'est pas, je la définirais absolument pas avec des critères rationnels. Pour moi, c'est juste, je dirais. Et après, ça peut être à n'importe quel niveau, mais juste sentir que t'as trouvé ta place.
Ouais. Hier soir, je participais à une conférence par Mouvement Up. Je ne sais pas si tu connais ce média.
Ouais,
et la journaliste me posait la question de savoir justement, c'était une conférence sur le sens, la quête de sens. Et elle me disait comment on se sent quand on est à sa place. Toi, tu répondrais quoi à cette question?
Ben, je trouve que tu te sens... tu te regardes dans le miroir et tu vois de la lumière. non, c'est des, ouais, tu te sens heureux. Je pense que si tu te sens heureux, tu te sens hyper motivé. Alors, ça veut pas dire que tu l'es hyper, t'es à la balle tous les jours. Hein,
ah bon?
mais tu te sens, tu te sens bien, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment un ressenti intérieur, ouais.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Rosemée de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Je pense qu'elle serait passionnée, enfin, elle aurait hâte, en fait, de voir toutes les aventures qui se passent dans cette vie. Ouais, je pense qu'elle aurait des étoiles dans les yeux, de se dire, il va se passer tout ça. À 6 ans, c'était le moment où je passais en CP, le moment où peut-être justement une partie de la flamme commençait à s'éteindre. Et ouais, je pense que ça la ravirait.
Ouais. Super. Qui dit choix dit renoncement. C'est quoi à toi tes renoncements?
Qui dit choix dit renoncement. Ouais. Qui c'est qui dit ça?
C'est ce qu'on dit dans la vie.
Ouais, je sais pas. Franchement, en fait. Elle résonne pas trop en moi, cette phrase. Parce qu'en fait, il y a des. Je dirais quand il y a. Ouais, on fait des choix, mais en fait, j'ai pas eu l'impression. On renonce à des choses et pourtant, c'est pas un sacrifice quand le choix il sonne juste. Donc, elle me parle pas trop, cette phrase, pour être honnête.
Il n'y a pas de souci.
Enfin, je trouve pas ça. En fait, je trouve pas dans le sens renoncement, il y a quelque chose de douloureux. Moi, j'y vois. J'ai eu plein de renoncements, mais c'est pas des choses qui me manquent pour autant.
C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eu à gérer, du coup, dans ce mouvement vers Change Now?
Je pense que c'est le doute. Hein. Le doute vis-à-vis de moi-même. Très clairement quand même, parce que c'était voilà, moi j'avais jamais fait d'événementiel, l'entrepreneuriat je connaissais pas non plus, c'est très très différent. Enfin, je dirais, moi je m'étais beaucoup raccrochée pendant des années en fait à des standards, voilà, avoir être bon élève, avoir des critères, presque t'es un peu évalué, ça te fait un retour et tout ça, et là tout d'un coup en fait entrepreneur, mais on s'en fiche, quoi, d'avoir personne qui vient t'évaluer, tu fais ta vie, et en fait finalement t'es un peu je me suis sentie un peu perdue au début, hein, un peu déboussolée, et le doute de savoir est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça, est-ce que je suis à la hauteur, il y a sûrement plein de gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans ce qu'on fait. Donc voilà. Ouais, et en même temps, je pense qu'en fait, ça sonnait pour pas mal d'autres raisons. Je pense que c'était à nous de le faire, ce projet.
Ouais. C'est pourquoi tu penses que c'était à nous de le faire?
Déjà, ce que je pense qu'il venait du cœur. Il venait de. Il y a une profonde authenticité. Et peut-être que d'autres personnes auraient pu avoir cette idée, mais pour des raisons peut-être beaucoup plus intéressées. Alors il y a quelques années, c'était, on aurait été fou de le faire pour des raisons intéressées. Maintenant qu'on voit qu'il y a un mouvement profond, beaucoup de monde en effet qui s'intéresse à ces sujets, d'entreprises qui passent le virage, etc. On pourrait se dire, bah voilà, pour des par opportunisme, on se lance là-dedans. Voilà, nous, ça n'a pas été le cas, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on l'a porté avec avec nos tripes, avec sincérité, et qu'on tient absolument à préserver ça.
Mmh. Et tout à l'heure, tu disais donc bon, t'étais pleine de doutes, ce qui est normal. Comment du coup t'as réussi à les désamorcer, ces doutes?
Je pense en faisant aussi confiance. En fait, moi, j'ai eu aussi dans l'entrepreneuriat, j'ai vraiment beaucoup appris à accepter ce qui vient, et pas forcément à vouloir tout contrôler. Voilà, je pense qu'avant, j'avais peut-être un schéma de vie qui était beaucoup plus dans la performance, le contrôle, etc. Et là, au contraire, j'ai complètement lâché prise, et j'ai appris, je pense aussi, à accepter ce qui vient et à faire avec ce qui vient. Et ça à tout niveau, et y compris toutes les personnes de l'équipe. Je vois d'un point de vue, par exemple, RH. Souvent, je me dis, bon, bah, voilà, je vais écrire une fiche de poste du profil dont on aurait besoin. Et puis finalement, et là encore, là, cette semaine, ça se confirme. C'est pas du tout ni ce profil-là, ni ce poste-là qu'on crée. Mais c'est une autre rencontre, et je me dis, bah, en fait, là, avec cette personne, il y a un truc à faire. Et allez, rejoins-nous et on va faire ça. et c'est complètement différent de ce que j'avais imaginé au début. Et donc voilà, je pense que j'ai vraiment appris en fait à reconnaître ce qui sonne juste. Et donc je me dis, ben finalement avec nous c'est un peu pareil. C'est peut-être pas comme ça que si on devait imaginer rationnellement les meilleures personnes pour porter un projet comme ça, on aurait peut-être pensé autre chose. Mais en fait, c'est nous qui avons été mis sur ce chemin. Et je fais confiance à ça.
Super. C'est quoi tes plus grandes peurs, du coup, dans le projet?
Alors, je ne dis pas que c'est forcément des peurs, mais c'est ma plus grande vigilance. C'est vraiment de garder... ce qui nous anime, ce qui fait ce pourquoi on a fait ça, ce pourquoi on a fait ça a été un changement de vie, ça a été un nouveau projet, réussir à garder ça, à préserver ça. Je sais pas à quel ce qui nous ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas de réussir à protéger un peu l'âme de Change Now. Mais en vrai, je suis assez confiante en fait. Enfin voilà, ouais, je sais qu'on saura le protéger.
Ouais, super. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
D'avoir écouté ma petite voix. Ouais, je pense que c'est... En vrai, je pense que c'est ça, d'avoir accepté un moment de lâcher prise et d'accepter ce que la vie met sur notre chemin. Donc nous, ça a été, voilà, il y a eu Change Now, mais même ça a été voilà, des rencontres qui ont changé ma vie et que j'ai accepté en fait.
Quel type de rencontre?
Clairement, je sais que la rencontre avec Santiago a été un tournant dans ma vie, et c'était pas forcément évident au début, mais
pourquoi?
Mais voilà, d'avoir... je sais pas, au début c'est une relation qui s'est construite peu à peu, mais voilà, il y a juste eu une main tendue à un moment et j'ai juste accepté de la prendre et en fait elle de ça est née beaucoup de choses,
de merveilles et une magnifique initiative.
Ouais, exactement. Et donc peut-être la plus grande fierté, c'est juste d'avoir accepté de faire ce petit pas, d'avoir accepté de saisir cette main au moment où elle s'est tendue.
Si des personnes ne connaissent pas ton histoire, voient que t'as cofondé avec ton mari et un autre associé, Changena, et qui a une presse quand même assez incroyable, et te dit mais tout ça c'est uniquement grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu auras envie de répondre?
Alors déjà, je me demanderais pourquoi, enfin si on dit ça en disant, ben voilà, si la personne me dit ça dans l'idée que voilà, ça a été facile. Je répondrai que je pense que j'ai vécu moi les plus dures années de ma vie. Hein. Ces premières années de Changena ont été un combat, mais voilà, qui était à la hauteur de la certitude qu'on avait par rapport à la nécessité de ce projet. Mais pour autant, à plein de points de vue, ça a été extrêmement difficile. Donc voilà, si tu me dis ça, voilà, t'as eu de la chance, dans le sens tout a été facile, je te dirais, mais t'imagines même pas par quoi on est passé. après, je pense que voilà, il y a une phrase que j'avais dite là récemment, justement à l'occasion de l'anniversaire de Change Now, c'est j'avais vu cette phrase de Paul Éluard qui dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et je pense qu'on avait rendez-vous sur ce projet. Et en ça, bah oui, c'est peut-être un peu de, je sais pas si c'est de la chance ou de la providence, mais il fallait que ça se fasse. Et donc, oui, plein de fois, ça aurait pu s'arrêter net. Ou plusieurs fois, on était à deux doigts de jeter l'éponge. Et en fait, il y a eu des petits signes qui nous ont fait nous accrocher. Et donc ça, c'est peut-être un peu de chance, en effet, d'avoir ces petits signes.
Et puis, aussi potentiellement les. Tu m'avais dit que c'était aussi également des personnes de l'équipe qui, justement, quand vous aviez des petits coups de mou qui étaient là, justement, pour vous dire on ne peut pas arrêter.
Ouais, ben voilà, ça a été ça pouvait être des personnes de l'équipe, mais des fois où on se disait, il nous manque tous les deux, on ne peut pas tenir. Et puis là, il y a des personnes qui nous contactent pour nous dire on a vu le projet, on a envie de vous aider, de vous rejoindre sérieusement. Ah, génial, merci, c'est ce dont on a besoin. Enfin, voilà, ça a été où financièrement, des moments où on avait plus rien, en fait, on disait, bah voilà, financièrement, là, on a plus, il n'y a plus rien. Et quelqu'un qui nous fait un prêt, enfin, il y a eu les aides, mais je pense qu'on est souvent, les aides sont arrivées quand on allait quand même au bout de ce qu'on pouvait donner. C'est un peu le « fais tout ton possible, Dieu fera l'impossible
». C'est Valérie Pastre que je diffuse d'ailleurs ce matin, qui est comédienne et qui a aussi fait des grands projets sportifs, notamment le rallye Aïcha des Gazelles. Elle racontait que pour faire ce rallye, ça coûte beaucoup, beaucoup de sous. Donc, la première année, elles se sont dit « on va le faire ». Au bout d'un an, elles n'ont pas eu les moyens financiers de le faire. Donc, elles ont dit « c'est pas grave, on le fera l'année prochaine ». Et elles étaient, je crois, à une semaine du départ du rallye et il leur manquait 8000 euros, ce qui est quand même pas neutre. Sa copine lui dit c'est foutu et tout. Fait non, on va trouver. Et genre à une semaine, message, elles étaient dans le métro, message sur leur répondeur, bonjour, vous m'avez contacté comme sponsor, je vous donne 8000 euros. Et tu dis, c'était le montant exact de ce dont elles avaient besoin. Et tu te dis, c'est quand même fou.
Moi, j'ai eu un truc, mais complètement. Et en fait, ça, quand ça arrive, pour moi, ça fait partie des clins d'œil de la vie où tu te dis, OK, c'est qu'il faut le faire. Ça sonne trop juste. Nous, moi, il est arrivé quelque chose d'un peu. Enfin, en fait, juste avant Change Now, la première édition, on apprend 48 heures avant le début du montage. Que les installateurs, les équipes de Céno, Mobilier, etc., nous disent qu'en fait, ils n'ont jamais travaillé avec nous, ce qui est vrai, qu'ils ne nous connaissent pas, et que du coup, ils veulent qu'on paye cash 100%. Sachant qu'on n'a pas eu encore les paiements des sponsors, qu'on n'a pas eu les rentrées de la billetterie, qu'on n'a pas d'argent. Donc, ils nous disent, si vous ne payez pas, on ne vient pas. Et ça, on est à deux jours de l'événement. Alors, on arrive, il se trouve qu'on a eu une subvention de la French Tech cette année-là. Et donc, avec ça, on arrive à négocier le fait que ce soit que 50%. Et là, on a une personne qui nous aide, qui nous dit, moi, je peux faire un prêt. Enfin, vous prêtez de l'argent, mais ça comble pas tout. Et en fait, le montant qui restait à payer, c'était exactement moi le montant de mes économies, ce qui me restait sur mon compte en banque. Et j'ai fait ok. Et en fait, un ou deux jours avant, non, c'est même le matin même, j'avais lu une phrase sur qui disait de une phrase qui disait d'avoir confiance, quoi. Je me suis dit, je mets
tout, quoi.
J'ai appelé ma banquière et je dis, vider le compte en banque.
On fait all-in sur Chanel.
Virer tout, voilà. Et il y aurait eu à quelques milliers d'euros près, j'avais pas l'argent, mais là, c'était pile ce qu'il fallait.
C'est fou, hein, parce que et puis, mine de rien, c'est fort parce que vous étiez du coup tous les deux à 100% sur Change Now, enfin avec déjà un enfant. C'était hyper courageux de faire ça.
Ouais, c'était. Mais voilà, je pense qu'on a. On sentait que c'était qu'il fallait le faire, quoi. Et puis après, bon, on savait aussi. Normalement, après, on a les sponsors qui nous payent, etc. Hein, donc, mais voilà, là c'était pile la disponibilité de trésorerie qu'on pouvait activer.
Ah, génial. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
Alors, moi, il y a un conseil qu'on m'a donné que j'avais trouvé très juste au début où je me lançais dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Enfin, mais bon, en vrai, qui s'adresse à tout le monde en vrai. C'est on m'avait dit de ne jamais négliger une rencontre. Et en effet, j'ai souvent repensé à cette phrase parce qu'en effet, c'est souvent des rencontres dont on attend le moins que naît le plus de choses. Et parfois, on attend beaucoup d'une rencontre, d'un partenariat ou quoi, et finalement, maintenant, ça va pas se faire. Mais il y a d'autres choses au contraire qui germent. Donc vraiment, ouais, ne pas négliger une rencontre.
C'est le même conseil qu'a donné Claire Desmarais-Poirier, qui est la fondatrice de l'Amande Verte. Je ne sais pas si tu la connais.
Je ne la connais pas, mais c'est un très bon conseil.
Ouais. Et Claire, elle a monté l'Amande Verte. C'est un café librairie. Ils ont également une plantation pour faire des tisanes bio en Bretagne. C'est une personne qui prône énormément tout ce qui est retour à la vie, urbaine, mais non, surtout pas rurale. Et là, elle vient de se présenter pour être présidente de la région Bretagne. C'est une femme, assez exceptionnelle. Et en effet, elle disait comme toi que en effet, il y a des rencontres où elle dit parfois on te dit appelle le cousin du cousin du cousin du cousin de machin et que tu te retrouves là en mode bonjour, on m'a dit de vous appeler, et que c'est souvent là que naissent les plus belles choses.
Ouais, complètement.
C'est quoi tes prochains défis?
Mes prochains défis, là, ça va être de réinventer un nouveau format d'événement.
Ouais.
Personnellement, j'ai un nouveau road trip en vue. Et sinon, professionnellement, c'est. Je pense qu'il faut aussi qu'on arrive, moi, à travers Chéja, qu'on arrive à mobiliser tout au long de l'année. Donc là, on est en train vachement de réfléchir à plein de projets de diversification. On en a plein. Et moi, tout particulièrement, je suis très sensible à l'engagement des jeunes, l'engagement des talents, en fait. Parce que moi, il y a un truc qui me rend un petit peu très triste, c'est de voir, alors même si ça c'est en train de changer, hein, mais de voir que quand on sortait d'école, les élèves les plus brillants vont finir dans des postes qui n'ont pas forcément d'utilité réelle sur des sujets. Toi, tu te retrouves, je sais pas, en marketing, sur je vais pas donner d'exemple, j'ai pas envie de froisser qui que ce soit. Mais comment est-ce qu'on mobilise en fait aujourd'hui massivement les gens, tout le monde, et en particulier les gens brillants, brillants et pas brillants, mais en soi, que les talents, que tout l'investissement que mettent les écoles dans la formation des gens, retombe sur la société dans un sens positif, quoi. Donc voilà, gros sujet là-dessus pour activer
tout ça.
Pour voilà. Activer tout ça.
Et comment tu gères toi aujourd'hui ta vie, parce que du coup donc t'as deux enfants dont un qui est quand même tout petit. L'événementiel c'est quand même quelque chose de très, voilà, qui prend beaucoup de temps. Et puis en plus dans cette période vous avez dû vous réinventer. Comment tu fais?
Je sais pas, je fais comme tous les parents. je m'arrange. en vrai, si tu veux, j'étais beaucoup moins confiante sur ma capacité à gérer une vie de famille dans le carcan que j'avais avant, où je n'avais pas du tout la liberté de m'organiser comme je voulais, où genre imaginer parler d'une journée de télétravail était juste impensable, où j'avais des temps de trajet imposés, des horaires imposés, je devais rendre des comptes et je réfléchissais deux semaines avant pour demander le moindre jour de congé. Là, je suis libre en fait. Donc ouais, je travaille sûrement. En vrai, je travaille sûrement plus qu'avant, même beaucoup plus. Mais en fait, je m'organise comme je veux. Si un jour, si j'arrive à me libérer un créneau pour aller chercher mon petit à la sortie de l'école à 4 heures, mais il est ravi comme tout et très bien. Et je retravaille derrière ou je le couche tôt et je travaille le soir. Mais en fait, je suis libre d'organiser quand même mon emploi du temps. Et du coup, je trouve beaucoup plus à même de jongler avec le fait d'élever des enfants et de créer une belle vie pour eux. Je suis beaucoup plus à même de le faire, je trouve, avec cette situation-là.
Ah, super. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Plein de monde. Mais ouais, moi, à mes proches, à Santiago de m'avoir tendu la main il y a X années, à ma famille. Je suis aussi très très inspirée par mes grands-parents qui sont plus là. Là maintenant, ça y est, là j'ai ma grand-mère ma dernière grand-mère qui est décédée cette année. Et à tous les quatre qui sont là, j'ai envie de leur dire un grand merci parce qu'ils nous ont transmis beaucoup de choses.
Super. Merci beaucoup, Rosemée. Et puis, on te souhaite évidemment tout le meilleur pour cette nouvelle édition de Change Now. Et puis, on suivra tout ça, sachant que il y a pas mal de, enfin, certains de mes invités qui ont déjà participé à Change Now. Je pense à Mathieu Torder ou Daniel Bouin. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres qui rejoindront l'aventure Change Now.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci Charlotte. À bientôt.
À bientôt.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour gagner des places pour l'événement Change Now, rendez-vous sur Instagram. Si vous avez envie de changer de métier, découvrez mon livre qui vient de sortir. Et si je changeais de métier, aux éditions Mango. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?